Bonjour les bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce de pouvoir le célébrer et nous rappeler que notre présence dans ce lieu de culte est la conséquence de l'amour de Jésus. Celui qui a donné sa vie pour nous racheter. On dit souvent qu'un parent est prêt à donner sa vie pour que ses enfants, pour que sa progéniture puisse avoir un avenir meilleur. Nous qui sommes des humains, nous pouvons comprendre la portée d'un sacrifice. On dit souvent que certains parents auraient pu faire de longues études, auraient pu avoir plus, mais ils se sont sacrifiés pour que leurs enfants aient encore mieux qu'eux. Nous pouvons comprendre la portée du sacrifice. Et c'est ce que Christ a fait. Lui qui est Dieu, lui qui a la vie éternelle, lui qui est le Dieu créateur, s'est rabaissé comme l'un d'entre nous. Il est devenu un mortel alors qu'il est immortel. Il a accepté d'être comme nous pour justement donner aux hommes et aux femmes de tous âges, de toutes générations, de tous les siècles, l'opportunité de vivre éternellement en Christ Jésus. Alors ce moment que nous venons de vivre ensemble, ce temps de Sainte-Seine, ce chant, n'est pas juste un chant, c'est une évocation historique de ce que Christ a fait il y a près de 2000 ans. Maintenant, il est glorifié, il est assis à la droite de Dieu le Père, dans cette Trinité qui est un mystère. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et il défend la cause de tous les humains. Il est notre avocat. Il est notre rédempteur. Il intercède pour que les hommes et les femmes continuent de s'ouvrir à lui. Alors, ce matin, j'aimerais que nous continuions de réfléchir. De vivre dans l'engagement pour le Seigneur. Dans un monde où cet engagement n'est pas dans la liste des 10 priorités. Je suis généreux. Elle n'est même pas dans la liste des 100 priorités de chaque humain. Certains même ne l'ont même pas dans leur liste de priorités. Connaître Dieu. On dit que nous sommes une société post-moderne, c'est-à-dire qu'on a dépassé la modernité. On est dans une échelle de grandeur qui n'a jamais été atteinte. Vu que nous sommes capables d'aller sur Mars, à combien d'années-lumière nous sommes capables de voir des choses, à combien d'années-lumière nous sommes si intelligents. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Et pourtant, c'est une régression. Le monde régresse par rapport à Dieu. Il faut l'assumer, il faut le dire, sans avoir peur. Le progrès scientifique est une bonne chose. Nous en bénéficions tous. Mais un sage a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Une science dans laquelle Dieu n'est pas présent est une science qui se trompe elle-même. Parce que de toutes les façons, tout revient à Dieu. Tout revient à lui. Ça commence avec lui et ça revient avec lui. Et je l'ai dit dimanche dernier, même ceux qui ont dit que Dieu était mort, ils sont morts et Dieu continue d'être vivant. Qu'un homme dise que Dieu n'existe pas, ça n'engage que lui. Ça n'empêche que Dieu, il existe, malgré ça. Malgré cela. Alors, continuons de méditer ce matin sur ce thème pour ne pas reculer, avançons. Pour ne pas reculer dans notre confiance en Dieu, il faut avancer. Et dans cet effort d'avancer, nous devons nous engager pour le Seigneur. Et j'aimerais ce matin présenter un personnage dans l'Ancien Testament qui va nous permettre de réfléchir sur cette question-là. Mais avant d'aller plus loin, rappelez que dimanche dernier, nous avons pu méditer en bout de l'épître de Pierre, la deuxième. Et j'aimerais rappeler la fin de cette deuxième épître de Pierre. Elle a 3 chapitres et le troisième chapitre, versets 14, versets 17 et 18, disent « C'est pourquoi, amis très chers, En attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche, en paix avec Dieu. Verset 17. Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenu. Faites donc attention. Ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi, vous pourrez rester solides dans la foi. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Rendez-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. C'est comme ça que l'apôtre Pierre finit cette deuxième épître qu'il écrit. Et j'ai précisé dimanche dernier que cet écrit semble être le dernier de l'apôtre Pierre. La deuxième de Pierre est son testament. Il sait, il sent que sa vie humaine, sa vie terrestre va basculer dans l'éternité. Et il dit, j'ai fait ma part, je vous ai averti. Je vous ai prévenu. Faites donc attention, prenez garde à vous. Veillez sur vous-même. Ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ceux qui sont ennemis de Dieu, c'est ceux qui font tout pour que Dieu n'existe pas. Ceux qui sont ennemis de Dieu, c'est ceux qui font tout consciemment ou inconsciemment pour démontrer que ça ne vaut pas la peine de faire confiance en Dieu. Alors, je m'en vais vous présenter quelqu'un. Quelqu'un qui aurait pu se passer de Dieu. Et pourtant, il a été quelqu'un qui marque l'histoire. L'histoire du monde, puisque quand on évoque son nom, il y a tellement de légendes sur lui, il y a tellement de films qui ont été faits sur lui, il y a tellement de récits sur ce personnage. Je vais vous parler ce matin de Salomon, le roi Salomon. Si vous tapez Salomon sur les moteurs de recherche, vous avez une milliard d'hommes de thématiques. Vrai ou pas vrai, il y a toute une légende qui a été fomentée autour de lui. Mais en tout cas, le récit biblique le présente comme fils de David. Et j'aimerais présenter l'engagement de cette personne ce matin pour nous. Il a succédé à son père David, selon ce que nous lisons dans l'Ancien Testament. Et l'une des choses que je veux partager avec vous ce matin, c'est la dédicace qu'il a faite. C'est lui qui a construit le temple. Le premier et le grand temple d'Israël a été sous la main de maître du roi Salomon. On dit que c'était un bijou architectural, c'était un lieu de culte inédit, parce que jusque-là, Israël n'avait pas de lieu de culte fixe. Et c'est Salomon qui le construit. Les datations, il y a des débats, mais en tout cas, on dit qu'il a fini cette construction entre l'an 1004 et l'an 1003 avant Jésus-Christ. Ça a pris 7 ans pour construire cet édifice, 7 ans pour construire cet édifice. Et au travers de ce récit, je veux nous inviter non seulement à réfléchir sur nous-mêmes, si nous avons dédicacé notre vie au Seigneur. Et nous comprendrons tout à l'heure dans cette méditation, c'est quoi dédicacer sa vie au Seigneur. La deuxième parole que nous voyons là, j'ai l'intention de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. C'est une parole de son père David, mais c'est une parole que Salomon a repris pour lui-même aussi. J'ai l'intention de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu. Et le Nouveau Testament dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Comme un parallèle entre ce temple physique bâti par Salomon et désormais le temple spirituel que chaque croyant est dans la vie de tous les jours. Et nous regarderons à cette similitude pour nous encourager ce matin alors que les activités reprennent en général après la période de l'été. Un roi. Chapitre 8, verset 1. Je ferai une lecture séquencée. J'ai l'intention de bâtir une maison à l'Éternel, mon Dieu. Nous lirons le texte qui fera l'objet de notre méditation, c'est 1 Roi, chapitre 8. Mais pour que nous comprenions l'histoire, je ferai un recul à un moment donné dans le chapitre 5 pour que vous puissiez avoir toute la fresque de ce texte de l'Ancien Testament. 1 Roi chapitre 8, alors que Salomon est déjà sur le trône. Le verset 1 dit, « Alors le roi Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les princes, les familles des Israélites, pour faire monter de la ville de David, c'est-à-dire Sion, le coffre de l'alliance du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblaient auprès du roi Salomon, au mois d'Étané, pour la fête. C'était le septième mois. Verset 6. Les prêtres amenèrent le coffre de l'alliance du Seigneur en son lieu, dans le secret de la maison, dans le très sacré, sous les ailes des chérubins. Verset 10. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, le Seigneur a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité épaisse. Ainsi, j'ai bâti une maison qui sera ta résidence, un lieu où tu habiteras toujours. Le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à David mon père et qui de sa main a accompli ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il soit bâti une maison où résidait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête d'Israël, mon peuple. David, mon père, a eu à cœur de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Seigneur a dit à David, mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur. Seulement, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, celui qui est sorti de tes reins, c'est lui qui bâtira la maison pour mon nom. Voici le début de cette célébration alors que le temple est fini. Et comme on dit, c'est l'inauguration de cette bâtisse. Et Salomon rappelle l'histoire. Comment les choses se sont passées. Pourquoi c'est lui qui a bâti ce temple alors que c'était son père David qui avait eu cette initiative. Le coffre de l'Alliance, c'est ce mobilier sacré que les Juifs ont hérité depuis l'Exode, dans lequel il y avait les tablettes de la loi. Et c'était un mobilier sacré, parce que ces tablettes, selon le récit biblique, Dieu lui-même a inscrit les 10 commandements sur ces tablettes. Et c'est Moïse qui l'a reçu lorsqu'il était dans ce pèlerinage sur cette montagne. Et ce coffre a fait souvent l'objet de convoitises des peuples, parce que certains peuples ont cru que ce coffre avait un pouvoir magique, comme si c'était un talisman. Et à chaque fois que quelqu'un attaquait Israël, l'idée c'était de l'attaquer pour voler ce coffre. Et quelques-uns en ont fait les frais, parce que un peuple qui s'appelle les Philistins, effectivement, ils ont volé ce coffre, mais ils l'ont volé à leur détriment, parce que ce coffre a créé bien des misères dans cette peuple-là. Et donc, ce coffre devait être remis ce jour-là dans le lieu très saint, dans cette bâtisse. Et c'est les prêtres qui s'en occupent. Et donc, Salomon rappelle que c'est son père David qui a eu vraiment à cœur de dire « L'Éternel a été tellement bon pour moi que je veux bâtir une maison à l'honneur de ce Dieu-là. » Pour que tous ceux qui veulent invoquer ce Dieu désormais sachent où aller. Et que chacun quitte les petits hôtels qui construisaient ça et là, mais bâtit vraiment quelque chose et qui n'est pas la dimension de Dieu, parce que Dieu, il est Dieu, il n'est pas un humain. Et David lui-même, il dit, c'est vrai, tu n'habites pas dans une maison faite de main d'homme, parce que ça ne peut même pas te contenir, tu es Dieu. Mais c'est une représentation, c'est un symbole que nous voulons faire. Et quand on lit ce récit, le chapitre 7, qui démontre la construction de cet édifice, les matériaux qui ont été utilisés sont des matériaux de qualité et de valeur. Parce que l'idée, c'était que ce temple dure, qu'il soit solide et qu'il résiste au temps. Et quand on revient au chapitre 5, on voit comment Salomon a commencé de bâtir cet édifice. 1 Roi, chapitre 5, à partir du verset 15, il est dit, Hiram, roi de Tyr, donc Tyr, c'est un autre peuple, mais ce roi respectait David. Et il avait su que David était mort et que c'est son fils Salomon qui était sur le trône. Donc ce roi envoya les gens de sa cour auprès de Salomon. car il a appris qu'on lui avait conféré l'onction pour qu'il soit roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu as connu David, mon père ? » Il n'a pas pu bâtir une maison pour le nom du Seigneur, son Dieu, à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts jusqu'à ce que le Seigneur ait mis ses ennemis sous mes pieds. Maintenant, le Seigneur, mon Dieu, m'a accordé le repos de tous côtés. Plus d'adversaires, plus de malheurs. J'ai l'intention de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, mon Dieu, comme le Seigneur l'a dit à David, mon père. C'est ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, qui bâtira une maison pour mon nom. » Comme quoi, ce que la parole de Dieu dit, sa mère l'accomplit aussi. Au moment où Dieu disait ça à David, personne ne savait que ça allait vraiment se réaliser. Et David avait tellement désiré construire cette maison. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi. C'est l'un de tes descendants. Et il savait que c'est Salomon. Et Salomon dit, c'est par moi que Dieu a accompli cette parole. Au chapitre 6 de toujours ce 1 roi, partie du verset 1, le roi Salomon commence à construire le temple du Seigneur. 480 ans après que les Israélites sont sortis d'Égypte. Donc, à peu près 5 siècles depuis que les Juifs ont été sauvés par Dieu de l'esclavage d'Égypte et mis en sécurité. C'est la quatrième année que Salomon est roi d'Israël. Donc, la quatrième année de son règne, il commence à exécuter cela. Il n'attend pas plus que cela. Le temple que Salomon fait construire pour le Seigneur a 30 mètres de long, 10 mètres de large, 15 mètres de haut. Devant la grande salle du temple, il y a une salle d'entrée. Elle a 10 mètres de large, comme le temple, et 5 mètres de profondeur, pour montrer la grandeur de ce bâtiment, à la taille de l'époque, bien sûr. Verset 11 de toujours ce chapitre 6, « La parole du Seigneur parvient à Salomon. Quant à cette maison que tu bâtis, si tu suis mes préceptes, mes prescriptions, si tu mets en pratique mes règles, si tu observes tous mes commandements et si tu les suis, je réaliserai à ton égard la parole que j'ai dite à David, ton père. Je demeurerai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas Israël, mon peuple. » Salomon bâtit la maison et l'acheva. Il avait promis, il avait eu cette intention. Il dit, j'ai l'intention de bâtir une maison pour mon Seigneur, mon Dieu. Et il a fait. Et il a fait. Alors, quand on revient au chapitre 8, on avait tout à l'heure lu jusqu'au verset 19 et qu'on reprend le verset 20. Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite. J'ai succédé à David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit le Seigneur, et j'ai bâti la maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un lieu pour le coffre où est l'alliance du Seigneur, celle qu'il a conclue avec nos pères quand il les a fait sortir d'Égypte. C'est ce que Salomon dit. Il est fier. Il est content d'avoir honoré sa parole. Et ce jour-là, il consacre cet édifice. Consacrer l'édifice, c'est-à-dire le dédier uniquement à Dieu et à rien d'autre qu'à Dieu. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus lorsqu'il a vu que le temple de Jérusalem avait été investi par des commerçants, par toutes sortes de brocanteries. Il a été outré. La Bible dit qu'il est venu, qu'il a chassé toutes ces personnes car il a dit car cette maison est une maison de prière et non pas une maison de commerce. Parce que cette maison avait été consacrée pour Dieu et non pas pour le commerce. Cette maison, lors de cette dédicace, c'est un événement extraordinaire. Les Juifs n'avaient plus jamais vu ça depuis 5 siècles. La nuée qui les avait conduits, qui avait conduit leurs ancêtres dans le désert. La Bible dit que le matin, c'était une nuée, une colonne de nuée qui les dirigeait. Ils n'avaient pas de boussole. C'était cette nuée-là qui était leur boussole. Et c'est celle-là que Moïse suivait avec le peuple. Et la nuit, c'était une flamèche de feu. Et c'est comme ça qu'ils se sont dirigés dans le désert. Et ce jour-là, à la dédicace de ce bâtiment, voilà que cette nuée qu'ils n'avaient pas connue, dont ils avaient entendu parler, est venue et a empli le bâtiment. Les prêtres ont eu juste le temps de sortir du bâtiment. Tellement cette présence était lourde, était prestigieuse, elle était majestueuse. Ce n'était jamais arrivé depuis 5 siècles. Et depuis que Salomon l'avait construit, même après, ça ne s'est jamais produit. C'était un événement unique. Nous en parlons comme si c'était un film, mais Mais ce témoignage de 1 roi chapitre 8 nous dit que ce n'est pas un film, c'est un fait historique. Dieu s'est manifesté pleinement ce jour-là. Le Seigneur a montré qu'il acceptait de demeurer dans cette baptiste. La question pour nous ce matin, pourquoi Salomon a bâti ce temple? Salomon a bâti ce temple pour donner, on est des humains, pédagogiquement nous avons besoin de repères. Et ce temple était un repère de la présence de Dieu, de la direction de Dieu, de là où on pouvait aller manifester une communion avec Dieu. Là où le peuple était convoqué régulièrement ensemble comme un seul homme pour prier Dieu et pour entendre la parole de Dieu. Mais ça préfigurait aussi celui qu'on appelle Dieu avec nous. Le nom de Jésus, son prénom Emmanuel, veut dire Dieu est venu tabernacler, Dieu est venu habiter au milieu de nous. Et ce temple préfigurait cette habitation. Elle était une préfigure que Dieu, le Fils, allait venir justement habiter au milieu des hommes. Pour l'instant, c'était une bâtisse qui le montrait. Avons-nous bâti un lieu pour le Seigneur? Avez-vous contribué une fois dans votre vie à bâtir une église? Je trouve que la culture française a beaucoup de richesses. Elle a aussi ses défauts, comme plein de cultures. Mais l'une des richesses, c'est ce qu'on appelle l'altruisme. Cette façon de se sentir concerné par des causes perdues. Et généralement, le français moyen donne pour la recherche. Donne quand il y a des catastrophes. Et je trouve que ça, c'est une belle chose dans la culture française. Nous sommes touchés par des situations qui nous font mal et nous ne voulons pas rester en retrait. Et pourtant, pour l'éternité, très peu investissent pour l'éternité. Un temple, une église, elle est là pour que les gens soient en connexion avec Dieu et qu'ils puissent goûter un début de l'éternité avec Dieu. Quelque chose qui n'a pas de fin. Vous savez, quelqu'un l'a dit, Patricia et quelques frères dans leur prière l'ont dit, nous avons le privilège en France d'avoir la liberté de culte. Donc nous ne comprenons pas toujours la grâce que nous avons. Mais si vous allez lire les récits des églises persécutées, il y a des pays où des frères ou des chrétiens aspirent juste à avoir 5 mètres carrés comme lieu de culte pour rester dedans, pour prier ensemble. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et des fois, même des gens qui ont le droit de le faire n'ont pas les moyens, ne serait-ce que pour louer une salle de culte. Je sais de quoi je parle parce que pendant 5 ans, avec une équipe, on a implanté une église à Corbeil-Essonnes. Dans le 91, c'était pas gagné. Les loyers étaient presque au-dessus du moyen des petits groupes que nous étions. Et quand nous trouvions des salles, c'était des salles pourries, avec pas de conformité. Et puis au bout de la 5e année, Dieu nous a fait grâce. Et cette église est encore dans ce lieu, en train de prier le Seigneur. Avez-vous contribué à bâtir un lieu de culte, à financer un lieu de culte? Bien-aimés, regardez où nous sommes. Nous sommes dans cette salle. Cette salle est un héritage. Un héritage d'une collaboration de ceux qui ont été là depuis 25 ans avec la mairie de Créteil. C'est grâce à ces frères, ces sœurs, ces missionnaires qui sont venus ici à Créteil depuis 25-30 ans que nous avons cette grâce d'avoir cette salle dans cette collaboration avec la mairie de Créteil. S'ils n'avaient pas fait, nous n'aurions pas eu cette salle. Qu'en est-il de nous ce matin? Nous avons cette grâce d'être là ce matin ensemble, assis dans des locaux plutôt propres, avec une louange, avec des musiciens, avec quelques commodités. C'est une grâce. Et c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de leur personne, qui donnent de leur bien que nous sommes là. Mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Est-ce que la présence de Dieu est dans ce bâtiment tous les dimanches? Peu importe qu'il appartienne à la mairie, ce n'est pas ça le but. Est-ce que la présence de Dieu est là lorsque le peuple de Dieu est rassemblé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur les dimanches quand tu viens? Je demande à Dieu une chose que je ne veux jamais vivre, c'est de faire de l'église quelque chose de traditionnel. Vous savez, les traditions, si on y prend garde, elles deviennent stériles. C'est-à-dire, on les fait machinalement, mais il n'y a plus de vie dedans. On ne reçoit plus rien, on ne vit plus rien, mais comme c'est une habitude, on l'a fait quand même. On a peut-être juste au moins le sentiment de ne pas être seul, de rencontrer des personnes, c'est déjà bien. Dans une société individualiste, avoir tous les dimanches un rendez-vous amical, waouh, c'est super. Et ça, c'est bien aussi. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Ici, c'est pour que les hommes et les femmes qui viennent ici rencontrent Dieu, se sentent concernés par Dieu. Dieu veut donner une opportunité pour rencontrer les hommes et les femmes qui viennent ici. C'est de ça qu'il s'agit. Des jeunes, des moins jeunes, des enfants, c'est ce que Dieu veut faire. Nous sommes tellement affairés, nous sommes tellement le nez dans le guidon, nous sommes tellement en train de faire plein, 10 000 choses nécessaires, prioritaires et importantes, que si Dieu n'arrête pas un moment pour que nous venions ensemble. Des fois, même nous les chrétiens, on n'a pas le temps. Il y a une sœur qui priait un jour tellement pressé dans cette prière, elle dit « Seigneur, tu sais tout, amen. » Ah, bien sûr que Dieu sait tout. Mais c'est le même Dieu qui dit prier. Parce qu'il veut communier avec nous, il veut converser avec nous. Si on commence à faire des prières flash, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu est obligé de nous arrêter, de nous convoquer. Et parfois on dit, oh mais 1h30 c'est beaucoup quand même. Parti de 11h30, il y en a qui regardent déjà la montre. Parce qu'on est pressé de repartir dans nos activités. On dit, ouais, mais un culte, ça ne doit pas durer si longtemps. On chante un peu, on prêche un peu, et puis c'est bon. Quoi. 1 heure, ça suffit. Et pourtant, souvent, on chante, on dit, 1 heure dans tes parvis, vaut mieux. Je me demande souvent si c'est vrai. Tellement, des fois, on a envie de repartir très vite. Que Dieu nous aide. Quand nous venons dans la présence de Dieu, que nous ayons conscience que nous venons dans la demeure de Dieu. Que cette présence te fasse du bien. Le bien n'est pas un bien matériel, le bien est un bien spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas que corps. Si nous étions que corps, ça se saurait. Mais quand le souffle de vie part, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas qu'un corps. Parce que devant la perte d'un être cher, quand tu vois cet être cher couché, là, et qui n'a plus de réaction, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle la vie et qu'on n'est pas juste qu'un corps. Et ce quelque chose-là, Dieu veut rentrer en contact avec ce quelque chose. Cette gloire de Dieu a rempli ce bâtiment ce jour-là. Je prie que Dieu remplisse ton cœur. Je prie que la gloire de Dieu remplisse ta vie, remplisse ma vie. Je prie que tu cherches à vivre quelque chose de particulier avec Dieu. On dit que notre génération, en tout cas la génération des jeunes de ce 21e siècle, est une génération spirituelle. C'est-à-dire que cette génération recherche des expériences dites exotériques. Et que certains jeunes qui sont dans des religions dites traditionnelles, à cause d'une certaine... Il n'y a plus la vie dans ces religions, donc ils vont chercher quelque chose, une expérience mystique ailleurs. Parce qu'ils ont besoin d'être connectés à quelque chose. On sait que malheureusement, ils se connectent à plein de choses, mais c'est pas Dieu. Que Dieu nous aide. Alors, Salomon rappelle le parcours. Salomon rappelle que son père avait cette intention et lui qui a hérité de son père, il a eu aussi à cœur de bâtir une maison pour l'Éternel, pour que le peuple d'Israël ait un lieu où adorer son Dieu. Et ça a coûté à David, hein, ça a coûté à Salomon, il faut le savoir. Hiram était un roi qui avait un territoire où il y avait du matériel de construction. Donc il tisse une alliance avec Hiram. Et David l'avait déjà fait avant son décès. Donc il rappelle à ce roi, tu te souviens de mon père David, cette alliance pour que je puisse avoir ce matériel, je veux le matérialiser maintenant. Hiram dit d'accord, mais ça va te coûter quelque chose. Et ça a coûté quelque chose à David, à Salomon du moins. On dit que cet arrangement lui a coûté 20 000 mesures, donc environ 6 tonnes de froment par an. 20 mesures, c'est-à-dire 900 000 litres d'huile d'olive concassée, ainsi que de l'orge et du vin. Chaque année, il fournissait tout ça à ce roi pour que ce roi lui donne du matériel pour construire le temple. Chaque année, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans. Ça lui a coûté. Mais il a investi pour que ce bâtiment, pour que cette bâtisse soit là pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que, au chapitre 6, Dieu vient l'encourager. Dieu dit, c'est bien, Salomon, cette intention que tu as eue, que ton père avait, et que j'ai dit, c'est son descendant qui le ferait, et c'est toi qui le fais, je te bénirai. Une seule condition, que tu restes obéissant à ma parole, que tu restes fidèle à l'alliance. C'est la seule condition. Donc, il y a un chemin qui a été parcouru. J'ai rappelé tout à l'heure que cette église aussi, il y a eu un chemin. Et le chemin n'est pas fini, puisque ce bâtiment ne nous appartient pas. Et que du jour au lendemain, et qu'est-ce qu'on va faire? Mais gloire à Dieu, parce que pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, tous ceux qui sont passés ici ont mis de l'argent de côté. Donc on a un petit fonds qui n'est pas suffisant, mais au moins ils ont fait ça. Ils ont fait comme David, ils ont mis de côté, ils ont préparé certaines choses. Je suis toujours marqué par ce missionnaire qui dit, quand vous arrivez dans une ville, quand vous déménagez, quand vous aménagez dans une ville, il y a des services que vous cherchez tout de suite, n'est-ce pas? L'école pour les enfants, si vous avez des enfants, ça peut aider. Et si c'est pas loin de la maison, c'est encore bien. Le médecin, parce que des fois, leurs lits sont bouclés. Et la seule chose qu'on fait tout de suite, c'est de chercher le médecin de famille quand on change de département. Sinon, après, on va faire des kilomètres pour retourner chez le médecin. Donc, le médecin. Voir s'il y a des hôpitaux qui sont pas loin. On ne sait jamais. La pharmacie. Et puis, le supermarché pour les courses. Ça aide aussi, ça. Et si c'est à côté encore, c'est mieux. Parce que des fois, on n'a pas le congélateur à perpète. Donc, il faut renouveler chaque semaine. Et si la distance n'est pas longue, ça aide beaucoup. Donc, toutes ces choses, on les cherche. Et ce missionnaire disait, mais quand les gens cherchent Dieu dans une ville, comment vont-ils le trouver s'il n'y a pas une église? S'il n'y a pas une église. Le premier obstacle, c'est la distance pour quelqu'un qui cherche Dieu. Imaginez-vous, quelqu'un qui cherche Dieu doit prendre 2 métros plus un bus pour se rendre à un lieu de culte. Bonjour le dimanche matin. Combien de gens nous avons accueillis ici qui ont dit, on a cherché, on est arrivé à Créteil, on a cherché une église et on a trouvé qu'il y avait une église à Créteil. C'est super important, bien-aimé. C'est ça que Salomon a fait et ça, c'est ça que les anciens ont fait ici. Et à cette reprise, c'est à cela que je voudrais que nous nous attelions. Faire en sorte que ce lieu de culte continue de vivre pour que les chrétiens et les chrétiennes continuent d'être édifiés et que des personnes qui cherchent Dieu puissent venir ici. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Vous savez que nos cultes évangéliques n'ont aucune subvention. C'est nous qui soutenons nos cultes évangéliques. C'est vous et c'est moi. C'est chacun d'entre nous. On n'a pas un service de ménage. La liste est derrière. C'est nous qui faisons le ménage ici. Mais on le fait pour la gloire de Dieu. Nous avons un chemin qui a été parcouru. Nous sommes le temple de Dieu, donc chacun de nous aussi a une histoire. Tu as une histoire, j'en ai une avec Dieu. Car ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Quelle est ton histoire avec Dieu? Quelle est ton histoire avec Dieu? Toi qui es le temple, en tout cas, si tu as reçu Jésus dans ton cœur, la Bible dit que tu es un temple. Tu es un lieu où Dieu aime venir habiter. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu aime venir habiter dans ton cœur? David n'a pas pu construire ce temple, c'est Salomon qui l'a fait. Ce Salomon, la partie de cette histoire de sa vie est une partie glorieuse. Si vous lisez chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, vous êtes émerveillés par les éloges qu'on fait à ce monsieur. Et il le méritait parce qu'il avait cette qualité-là, parce que Dieu lui a donné une sagesse incroyable. Et avec cette sagesse, il a su conduire sa vie, celle de son peuple, celle de son règne. Mais plus tard, Salomon a reculé. C'est pour ça que j'ai intitulé cette série de prédications « Pour ne pas reculer, avançons ». Pour ne pas reculer, avançons. Pour ne pas reculer, avançons. À un moment donné de sa vie, Salomon a stagné et il a reculé. Ce grand Salomon qui a vu la gloire de Dieu dans ses bâtiments, qui a mis 7 ans à construire ce temple qui est resté plusieurs siècles avant qu'il soit détruit, dont on parle encore aujourd'hui. On dit que la gloire de ce temple n'a pas d'égal. Et pourtant, ce bien-aimé roi a failli mal finir parce qu'il a reculé dans sa confiance en Dieu. Des fois, on dit, si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Ça peut t'aider. C'est-à-dire que si tu t'es battu pour te réaliser et qu'à un moment donné, tu te perds un peu, rappelle-toi que ça t'a coûté des efforts pour être jusque-là et que ça ne vaut pas la peine de tout détruire. Il y a une très belle séquence dans ce chapitre 8. Je ne ferai pas la lecture totale parce que c'est un long paragraphe, mais qui me plaît tellement, où Salomon parle à Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu? On n'est pas des uberlus, on n'est pas des fous. Hein. On n'a pas pété un câble. Hein. Dieu, il est vivant. C'est un être vivant. C'est l'être vivant par excellence. La Bible dit qu'il est omniprésent, il est partout. Donc je peux lui parler n'importe où, n'importe quand. Et de n'importe quelle façon. Que ma bouche remue ou qu'elle ne remue pas, je peux parler à Dieu. Il m'entend. La Bible dit qu'il sonde les reins. Il connaît les motifs les plus cachés de nos pensées. Donc je peux lui parler en pensée. Je peux lui parler ouvertement. Je peux lui parler même par des soupirs inexprimables. Car il sait tout. Il aime communier avec nous. Et Salomon parle à Dieu. Il parle à Dieu. Verset 28 du chapitre 8. « Cependant, Seigneur, mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, vers ma supplication, pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse aujourd'hui. Ah, Seigneur, entends-moi. Entends la prière que je fais vers ce lieu. Tu entendras ma supplication et celle d'Israël, ton Dieu, ton peuple du moins, lorsque nous prierons vers ce lieu. » C'est pour ça que les Juifs ont pris l'habitude de prier vers le temple de Jérusalem. C'est depuis ce jour-là. Et il y a un autre qui les a imités. Ils prient aussi vers, par imitation. Et Salomon dit, à chaque fois qu'un de tes enfants va prier, soit là, soit vers ce lieu, entends, s'il te plaît. Écoute et réponds. Et ce verset est rempli de toutes les façons dont en Israël pouvait prier Dieu. Et il dit à chaque fois, même s'ils ont péché contre toi et qu'ils viennent te demander pardon, s'il te plaît, entends, pardonne-leur et fais-leur grâce. Il dit, même si quelqu'un qui n'est pas Israël, qui est un étranger, entend parler de ta gloire et qui vient dans ce temple et qui dit, je veux prier le Dieu d'Israël, entends-le, exauce ses prières. Il fut un temps où les églises restaient ouvertes. Parce que les églises avaient l'idée qu'à tout moment, un chrétien aurait besoin de venir prier dans une église. Ce temps est révolu aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui ont pillé les églises parce qu'elles sont restées ouvertes. Ça, c'est pour des églises riches. Mais moi, je réalise aussi que même quand on est des petites communautés, à force de dire « chacun peut prier Dieu », on ne vient plus prier dans la maison du Seigneur. Je fais une permanence ici deux fois par semaine. Des fois, ma femme me demande « il y a quelqu'un qui est passé ?» Personne. Mais ce n'est pas tant l'idée que les gens passent, c'est l'idée que la maison de Dieu est disponible. Des fois, on habite dans des endroits où le bruit, où ça ne nous permet pas de prier. Ici, vous avez cette liberté de venir prier. C'est ça. C'est pour ça qu'on bâtit des églises, pour que les chrétiens aient un espace où ils peuvent venir. Là, Salomon dit, quand je viens, puis je crie à toi, littéralement, ici, je peux crier. Mais chez moi, je ne peux pas crier à Dieu, c'est pas possible. Le voisin va dire, oulala. Le voisin a pété un câble de l'autre côté. En plus, il est hystérique, il parle d'un Dieu. Ça a fait le tour du palier, vite fait. Mais ici, c'est marqué église, donc c'est normal que quelqu'un entende ma prière. C'est normal, parce qu'ici, c'est une église. Voilà pourquoi nous avons cet encouragement de permettre qu'il y ait des lieux comme ça, pour que les chrétiens, les chrétiennes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui cherchent un endroit pour prier. Souvent, nous sommes contactés par des non-chrétiens au téléphone, qui cherchent à prier, et nous les invitons à venir nous rencontrer ici, pour prier avec eux. Ici, c'est un lieu de bénédiction. Salomon dit quand ils viennent dans cette maison, bénis-les. La bénédiction, c'est fais-leur du bien. S'ils ont péché, pardonne-leur. S'ils ont besoin de quelque chose, entends et exauce leur prière. Car Dieu est un Dieu qui bénit. Un Dieu qui n'est pas là pour punir. Il est là d'abord pour aider, pour prendre soin, pour accompagner. C'est de ça qu'il s'agit. Et enfin, Salomon, à la fin de cette cérémonie, fait une offrande à Dieu. Il dit, ce Dieu-là, il est incroyable. Ce Dieu-là, il est incroyable. Il m'a permis d'avoir un règne de paix. Il m'a préservé la vie. Il m'a donné la sagesse. Il m'a donné ce dont j'ai besoin. Et je voudrais que cette maison ne manque de rien. Et il a fait des offrandes à cette maison. Il a fait des offrandes à son Dieu. À l'époque, on faisait encore des sacrifices d'animaux. Et si vous voyez le nombre de sacrifices, c'est la folie. 22 000 bœufs. Mais la fête a duré 7 jours quand même. Et il y avait tout le peuple. Donc les 22 000 bœufs, ce n'est pas tout qu'on brûlait. Hein. On en mangeait aussi pas mal. Donc il y avait du monde. 120 000 brebis et chèvres. Mais c'était à la dimension de ce Dieu qu'il avait fait ça. Mais la dimension aussi du peuple qui était venu pour cette fête. Et il en avait les moyens. Mais il aurait pu garder ses moyens pour lui-même. Mais il les a offerts à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il ne s'agit pas de nous dépouiller pour enrichir l'Église, mais il s'agit de donner les moyens à l'Église pour que l'Église puisse continuer de faire l'œuvre de Dieu. Une fois, parce que ce bâtiment appartient à la mairie, et quand il y a des travaux à faire, on appelle le service technique de la mairie. Donc, ils sont venus, c'était des vitres. Ils ont changé les vitres en vitres doubles et tout. Et puis, elle n'était pas aussi belle que ça, hein, parce qu'elle avait pris un peu un coup de vieux. Et puis, un des agents de la mairie m'a dit, gentiment, m'a dit, monsieur le pasteur, ça serait quand même un peu bien que vous rafraîchissiez la peinture de la salle. J'ai dit, oula, que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui dit ça gentiment, ça fait quelque chose. Et j'en ai parlé au conseil, et là, ça nous a piqué tous, et on s'y est mis. Et dernièrement, j'ai eu un beau cadeau, un bel album, à mon anniversaire, qu'Agnès m'a offert. Elle a mis ses photos quand on a fait les travaux ici. Et tout le monde y est passé, les enfants, les jeunes, tout le monde, on s'est mis ici, et ça a donné ce bâtiment-là. Que le Seigneur soit béni pour cela. Pourquoi je vous dis tout cela ce matin? Parce que c'est la reprise. Et que nous devons tous retrousser les manches pour y aller à nouveau. Amen. C'est ici que Dieu nous a amenés au service. C'est ici qu'il nous a embauchés. Nous sommes embauchés dans cette communauté pour qu'elle reste vivante, pour qu'elle reste debout, pour que des hommes et des femmes viennent ici pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Jésus-Christ. pour que les chrétiens viennent ici pour être édifiés, grandis dans leur foi. Amen. Et nous avons besoin d'abord de nous donner nous-mêmes. Selon Romains 12, chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas d'abord notre matériel dont Dieu a besoin, c'est nous-mêmes. Donner notre vie à Dieu, appartenir à Dieu. Et ensuite, bien sûr, cette racine de notre foi, elle va produire des fruits dans les bonnes œuvres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple de Dieu si tu as Jésus en toi. Et nous avons besoin de bâtir d'abord nos vies individuelles. C'est la reprise. Grandis dans ta foi. Attache-toi à Dieu. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Les matériaux ne te trompent pas. Souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pour construire, il faut construire avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Qu'en cette reprise, nous puissions faire comme Salomon. En tout cas, dans cette phase de sa vie. Que chacun de nous soit animé par l'idée que ça vaut la peine de s'investir pour qu'une église puisse être une église vivante où la présence de Dieu est manifestée, où des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des enfants viennent rencontrer Dieu, où ils sont édifiés, où des gens ont difficulté, des gens qui ont plus d'espoir puissent venir trouver de la compassion, de la prière, de l'aide. Que Dieu nous aide pour qu'en cette reprise, chacun de nous se sente concerné. J'ai l'intention de bâtir une maison pour mon Seigneur et mon Dieu. Et cette maison, c'est d'abord ma vie, c'est la vie de ma famille, et ensuite, c'est l'Église. Celle là où je suis aujourd'hui, celle de Créteil. Prions. Seigneur, en tout cas, je pense que tu m'as mis à cœur d'exhorter, de nous exhorter à cette reprise, à nous sentir concernés par l'édification de la maison de Dieu. Et cette maison, c'est d'abord nous. Nous sommes un temple. Pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui sont en chemin, montre-leur qu'ils ont besoin de toi, de cette communion avec toi, de cette relation avec toi, pour qu'ils quittent le chemin de la perdition, mais qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de toi pour être sur le chemin de la vie éternelle. Pour nous, les moins jeunes, les plus jeunes, les plus anciens, les récents, mais en tout cas dans la foi, aide-nous à nous sentir concernés. Que ton Saint-Esprit, comme pour Salomon, parle à nos cœurs et nous rende disponibles et disposés pour te servir en Jésus-Christ.